Alors, nous sommes heureux d'accueillir le frère José, père Carme, qui va commencer ce cycle de trois rencontres comme une petite école d'oraison pour apprendre à grandir dans l'amitié du Seigneur. Avec l'idée, peut-être l'année prochaine, si Dieu le veut, de faire une véritable école d'oraison un peu plus prolongée, toujours avec l'aide des pères Carme, qui sont docteurs en vie spirituelle, en quelque sorte. Enfin, en tout cas, leur fondateur et fondatrice. Hein, voilà. Bon, nous sommes heureux donc de l'accueillir. Notre rencontre se passera ainsi, les trois fois. D'abord, un enseignement suivi de questions pendant une heure, et puis un quart d'heure d'oraison à l'oratoire. Nous finirons par un chant, et ensuite nous nous retrouvons pour une petite collation pour nous retrouver. Nous remercions le frère d'être là et nous pouvons peut-être commencer par une prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché,
priez pour nous.
Notre-Dame d'Allée,
priez pour nous.
Avant de donner le micro au Père, est-ce que tout le monde entend au fond? Ça va? Très bien?
Parfait. Est-ce que si c'est moi qui parle, vous entendez toujours? J'étais sûr de la réponse. Que je le mette. Là, ça va? Non, mais il faut que je le rapproche très près de ma bouche.
Ou que je l'augmente.
Oui, là, non, voilà. Est-ce que là, ça va? Bon, très bien. Alors, ce soir, je vous propose, puisqu'il faut parler mystique, bon, ceci dit, il y en a déjà que le mot est frais en soi, par la vie mystique, si vous voulez, il faut comprendre tout simplement la vie dans l'esprit. Voilà, se laisser mouvoir et vivre sous l'impulsion de l'esprit. Ça n'est que ça, mais tout ça. Donc, voilà. Et ce soir, je vais vous parler de l'expérience spirituelle de Thérèse d'Avila. Et je vais commencer par une citation. Alors, je la citerai à espace régulier, mais là, ce sera Éloi Leclerc, qui était franciscain, ou capucin, je ne sais plus. Franciscain. Il y a trop d'écho. Donc je vais continuer à parler pour savoir si là ça va peut-être moins bien. Ça va au fond? Et ceux qui ont des problèmes d'audition?
Non, il tient par un élastique là.
L'Esprit Saint a des moyens très sommaires parfois. Non, mais ceci dit, au fond, vous m'entendez?
Oui,
très bien. Sinon, les sources d'oreilles, venez vers moi. Très bien. Ils sont déjà devant, c'est très bien. Alors, la citation que je vais vous donner, à la limite, je la cite et je m'en vais, et si vous avez tout compris, c'est suffisant. C'est tiré d'un ouvrage que, si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille très vivement. Là, on peut être au Carmel et être ouvert à d'autres choses. Ça s'appelle « Sagesse d'un pauvre ». Et il est dit ceci à un moment, « L'homme n'est pas sauvé par ses œuvres, si bonnes soient-elles, il lui faut encore devenir lui-même l'œuvre de Dieu. » Je dirais, c'est ça, la vie mystique. Oui, je pense à une chose, je le dis toujours et avant que j'oublie, je le fais. Si jamais je dis quelque chose que vous ne comprenez pas, mais j'entends comme après les questions-réponses, si vous n'êtes pas d'accord, on verra ça à la fin, mais si vous ne comprenez pas, vous me faites un grand signe et vous m'arrêtez et j'explique. J'ai déjà eu des personnes qui sont restées bloquées sur un mot que j'avais dit. Moi, ça me semble évident, mais pas pour tout le monde. Donc voilà, si vous ne comprenez pas, hein, pas si vous voulez contester, ce sera à la fin, ça ne me pose aucun problème. Mais voilà, compréhension, vous m'arrêtez tout de suite. Donc, l'expérience de Thérèse d'Avila. Je commencerai par un petit épisode de sa vie à l'âge de 7 ans. Elle était déjà, on va dire, une meneuse d'hommes, puisqu'elle prend son petit frère Rodrigue et elle décide de s'enfuir chez les morts pour se faire couper la tête. Voilà. Elle voulait voir Dieu très vite et pour elle, pour une enfant de 7 ans, bah, pour voir Dieu, il faut mourir. Donc, le moyen le plus rapide de mourir, c'est d'aller chez les morts et de me faire couper la tête. Voilà. En fait, ce petit mot d'enfant, cet épisode, quelque part, il éclaire un petit peu toute sa vie. Cette soif qui habite son cœur et qui est cette soif de voir Dieu, cette soif d'être auprès de Dieu. Et toute la spiritualité, toute la vie de Thérèse d'Avila, finalement, se retrouve dans ce mouvement vers Dieu. C'est pas pour rien qu'un certain Marie-Eugène, un carme, a écrit un livre qui s'appelle « Je veux voir Dieu ». C'est une expression de Thérèse d'Avila. Et dans cet ouvrage, il dépeint tout le cheminement spirituel. Donc ce désir de voir Dieu, Thérèse d'Avila va le vivre et le découvrir dans l'oraison. Alors aujourd'hui, vous entendrez parler d'oraison. Certains utiliseront l'expression qui fait peut-être moins peur, prière silencieuse, prière du cœur. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est du pareil au même. Voilà. Donc si prière silencieuse, ça vous fait moins peur et vous préférez, pour moi, tout va bien. Moi, j'utiliserai le mot oraison. Mais on parle de la même chose. Donc cette vie de Thérèse, elle progresse dans sa vie spirituelle à mesure qu'elle progresse dans sa vie d'oraison, dans sa vie de prière, avec des périodes de fidélité, des périodes, on peut dire, de chute, de moindre ferveur. Et en général, ces périodes de tiédeur, on va dire, chez elle, sont toujours liées à un manque ou à un relâchement au niveau de l'oraison. Vraiment, l'oraison est le maître mot de la vie de Thérèse d'Avila. Pour Thérèse, l'oraison est vitale. Et elle entre, l'oraison, et pour elle et pour tous ceux à qui elle en parle, l'oraison, ça rentre dans le mouvement de la grâce et de la vie filiale en nous. Donc tout le parcours que Thérèse d'Avila propose dans ses écrits, alors je dirais n'importe lequel que vous preniez, elle en parlera, même quand elle ne fait que raconter sa vie ou ses fondations, de toute façon, à un moment, elle se sentira obligée de parler de l'oraison. Donc c'est dire que pour elle, c'est le pilier. Et de la qualité de l'oraison, et pour elle et pour nous, dépendra eh bien, toute la marche de l'âme vers Dieu. Donc déjà, je parle de marche, il ne faut pas imaginer l'oraison comme quelque chose de statique. C'est une vie. On avance, on recule, on tombe, on se relève, on fait des progrès. Voilà, des fois, on peut un peu stagner, mais il y a un mouvement. Alors, on parle d'oraison, mais qu'est-ce que c'est? Pour Thérèse d'Avila, c'est une chose toute simple. Et là, je vous donne sa citation, ça tient en deux lignes. L'oraison n'est rien d'autre qu'une relation d'amitié où l'on s'entretient souvent et intimement avec celui dont nous savons qu'il nous aime. Ça n'est que ça, l'oraison. Une relation d'amitié. Ce n'est pas un exercice de réflexion, de cogitation intellectuelle, ni de, je dirais, de scrutation égocentrique de son nombril, c'est une relation avec quelqu'un. Donc même quand on parle de prière silencieuse, il ne faut pas se tromper sur le silence dont il est question. Il ne s'agit pas de faire silence pour faire silence, ça je dirais on s'en fiche un peu. Pour Thérèse d'Avila, le silence, c'est le moyen pour parvenir à la rencontre. Et en même temps, la rencontre va créer le silence. Pour vous donner une image, c'est un peu quand soit une maman regarde son bébé. Voilà, il y a des fois, on voit, elle ne dit rien et quelque chose se dit par le regard. Ou prenez simplement les amoureux qui se regardent dans le blanc des yeux, ils ne se disent rien et pourtant il y a tout un langage là derrière. Voilà. À l'oraison, c'est pareil. Le silence, il est parole. Mais toujours, toujours sous le signe de l'amitié. De la rencontre entre deux partenaires. Si vous voulez un mot biblique pour illustrer l'oraison, c'est l'alliance. Donc dans l'oraison, selon Thérèse d'Avila, tout ce qui va dans le mouvement de l'amour, dans le mouvement de l'amitié, est bienvenu. D'ailleurs, elle dira, dans l'oraison, il ne s'agit pas de beaucoup penser, mais de beaucoup aimer. Donc Thérèse d'Avila ne s'embête pas avec des pratiques de dévotion, elle a les siennes, mais à l'oraison, tout ce qui va l'aider est bienvenu, et ce qui ne sert plus est mis de côté simplement. Elle veut, et c'est ce qu'elle propose, que l'on chemine dans la grande liberté. Il y a parfois des personnes, quand on parle avec elles, il leur faut une méthode, et si on ne suit pas scrupuleusement le défilé des points 1, puis 2, puis 3, plus 4, ça ne va pas. Voilà, ça c'est bien, quand ça donne une direction, mais si ça devient quelque chose qui fige et qui se durcit, voilà, là la question c'est vous faites quoi ? Vous suivez une méthode ou vous voulez rencontrer Dieu ? Donc l'oraison, comme disait un de nos anciens, Thérèse d'Avila était douée pour faire salon, donc elle va faire salon avec Dieu. Et bien souvent, elle dira qu'elle est là pour tenir compagnie simplement. Et c'est ce qu'elle demande. Je vous la cite. « Je ne vous demande que de regarder Dieu. Vous pouvez regarder des choses très laides et vous ne pourriez pas regarder la chose la plus belle qu'on puisse imaginer. Car jamais le Christ ne vous quitte des yeux. Il a supporté de votre part 1000 laideurs et abominations contre lui, et cela n'a pas suffi à détourner son regard. Est-ce beaucoup vous demander que de perdre de vue ces choses extérieures pour le regarder, lui, de temps en temps ? Considérez qu'il n'attend que cela, que nous le regardions. Quand vous le voudrez, vous le trouverez. » Notez bien, hein, quand vous le voudrez, vous le trouverez. Finalement, tout dépend de nous en un certain sens. Il n'y a qu'à vouloir pour. Donc ce temps d'oraison, c'est le temps fort de l'amitié entre Thérèse d'Avila et Dieu. C'est le temps où la personne et Dieu se retrouvent pour un temps gratuit. Et comme dans l'amour humain, plus on aime, plus l'autre nous est présent. La petite Thérèse avait aussi dit ceci en son temps. Alors là, c'est sa sœur qui lui parle, Céline. Et Céline raconte, « Comme je demandais à Thérèse si elle perdait quelquefois la présence de Dieu, elle me répondit tout simplement, « Oh non, je crois bien que je n'ai jamais été 3 minutes sans penser au bon Dieu. » Je lui témoignais ma surprise qu'une telle application soit possible. Elle reprit, « On pense naturellement à quelqu'un que l'on aime. » Voilà. Souvent, les plus grands mystiques sont d'une simplicité un petit peu déconcertante. On a souvent, peut-être vous connaissez cette statue de Thérèse d'Avila du Bernin. Du Bernin où elle est en extase, complètement les yeux un peu révulsés avec un ange qui la transperce. Souvent on imagine Thérèse d'Avila scotchée en extase, en lévitation et autres grâces extraordinaires. Donc, en fait, quelqu'un de très éloigné de nous, qu'à la limite, on peut admirer, mais certainement pas imiter. Alors, c'est vrai qu'elle a connu des phénomènes extraordinaires, mais ce n'est pas pour rien que l'Église ne la propose comme maîtresse de vie spirituelle et maîtresse d'oraison. C'était une femme hyper pratique, les pieds sur terre, et même d'ailleurs, quand on lui raconte que voilà, il y a telle sœur, elle a des extases, elle tombe, elle faiblit, réponse de Thérèse d'Avila, donnez-lui de la viande à manger et ça va passer. Voilà. Et pourtant, elle, des extases, elle en avait eu. Mais en même temps, elle ne se laisse pas berner par les apparences. Et ceci dit, toutes ces extases qu'elle a eues, dont souvent on a l'image, ça ne correspond qu'à 10 années de sa vie. Elle est morte à une 60aine d'années. Voilà, sur 10 ans, c'est pas grand-chose. Et si vous pensez qu'elle n'a pas connu les difficultés dans l'oraison, alors je vous la cite. Très souvent, pendant quelques années, j'étais plus désireuse de voir la fin de l'heure que je devais passer en oraison et d'entendre sonner l'horloge que d'autres bonnes choses. Et j'aurais bien souvent affronté de meilleur cœur je ne sais quelle pénitence plutôt que de me recueillir dans l'oraison. Il est vrai que le démon me faisait violence si intolérablement, lui ou mes misérables habitudes, pour que je n'aille pas faire oraison. J'éprouvais une telle tristesse en entrant à l'oratoire que je devais faire appel à tout mon courage pour me contraindre. Mais enfin, le Seigneur m'aidait. Là, elle dit quelques années, ça a duré 18 ans quand même. Donc, elle a connu les difficultés de l'oraison, voilà, et autres petites misères, et tout ça pendant quand même plus ou moins 18 ans. Donc, je disais que toute la vie de Thérèse d'Avila est liée à l'oraison. Une oraison qui est vécue comme une relation d'amitié avec Dieu. Mais Dieu n'est pas une abstraction, hein, c'est pas la divinité en soi. Pour Thérèse d'Avila, Dieu c'est quelqu'un de bien précis, c'est le Christ. Et d'ailleurs, et de son temps, je dirais comme d'une autre, en ce sens-là, elle est hyper moderne. Elle a testé ses méthodes, on va dire, où il faut se fondre dans la divinité, tout oublier, perdre de vue le créé, et se fondre dans, un petit peu en Dieu. Aujourd'hui, on dirait un peu dans le grand tout. C'était des méthodes qui avaient déjà un plus ou moins cours de son temps. Et un jour, elle dira, ça a été le plus grand péché de ma vie, que de croire que le Christ pouvait être un obstacle. Voilà, parce que dans ces méthodes de son temps, il fallait même évacuer le Christ. Voilà. Une fois qu'on était très spirituel, il fallait se fondre dans Dieu, voilà, dans une abstraction. Donc le Christ est central dans la vie de prière, dans la vie d'oraison. Et Thérèse d'Avila, son histoire est une histoire d'amour avec le Christ. Et quand elle écrit un petit ouvrage qui s'appelle « Le livre des fondations », donc c'est un livre où elle raconte les différentes fondations qu'elle a faites, de monastères de Carmélites et de Carmes, donc c'est un récit. À espace très régulier, elle nomme les interventions du Christ par des petites phrases du genre « Le Christ lui dit « Attends et tu verras », « Le Seigneur m'a dit », Il a encore dit ceci, il me dit « Tiens bon », il me dit « Vas-y maintenant, prends plutôt du recul, n'y va pas ». Voilà. Le Christ est le compagnon de ces journées. Alors, vous allez me dire « Moi, j'entends pas, le Christ ne me parle pas, et c'est normal, et il y a peu de chances que vous l'entendiez ». Ceci dit, Thérèse d'Avila, son expérience, je dirais, c'est à la loupe, ou plutôt au microscope, ce que nous, on vit sans microscope. Voilà. Le Seigneur lui a fait voir en grossissant énormément les choses pour qu'elle voie, pour qu'elle comprenne, et qu'ensuite elle puisse en parler et en témoigner, et donner des points de repère. Nous, on se base sur les points de repère, on vit les mêmes choses, mais sans ce grossissement, parce qu'on n'en a pas besoin. Pour Thérèse d'Avila, c'était lié à sa mission, au fait qu'elle devait écrire, qu'elle devait expliquer certaines choses, et pour pouvoir les expliquer, il fallait qu'elle les comprenne. Donc Dieu lui a fait vivre les choses en grand. Parce que comme ça, c'était suffisamment gros pour qu'elle puisse voir et comprendre. par exemple. Excusez-moi, on vous a envoyé un malade. Donc, par exemple, quand elle décrit dans le livre des demeures, elle décrit le cheminement spirituel en 7 étapes, donc une progression, et la 7e est le sommet, l'union avec Dieu. On pourrait se dire, waouh, j'en suis bien loin, et peut-être ça risque pas de m'arriver en cette vie. Mais en même temps, si on regarde un peu quelles sont les caractéristiques de ces 7e demeures, du sommet, on voit que il y a quelque chose qui est de l'ordre du pardon, de la réconciliation. Il n'y a plus rien en nous qui fait opposition à Dieu. On est totalement unis à lui. Et finalement, on vit pleinement le salut que nous apporte le Christ. Ça, finalement, je dirais, notre carême actuel est là pour nous rappeler que c'est notre quotidien. En même temps, Thérèse d'Avila, quand elle en parle, elle décrit une forme de plénitude et un état habituel. Mais on peut dire, sans trop dire d'hérésie, que chaque fois que nous vivons une grâce, une réelle grâce de pardon, on vit quelque chose de l'ordre de ces demeures qui sont les 7e. Donc pas besoin d'attendre les sommets de la vie spirituelle pour en vivre déjà la réalité. Voilà, là je reviens à mon texte. Donc toute la vie d'oraison, de prière, tout le cheminement de Thérèse d'Avila est lié à la présence du Christ. Et du Christ, le Verbe fait chair, Dieu fait homme. Pour elle, il n'y a pas de vie spirituelle, de vie mystique, sans ce recours direct au Christ. C'est lui qui est le compagnon de tous les jours, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Je vous la cite un petit peu longuement. Nous pouvons nous représenter nous-mêmes devant le Christ, nous exercer à vivement nous éprendre de son humanité sacrée, vivre en sa présence, lui parler, lui demander ce dont nous avons besoin, nous plaindre à lui de nos peines, nous réjouir avec lui de nos joies et ne pas l'oublier pour autant, sans chercher des prières apprêtées, mais des mots conformes à nos désirs et à nos besoins. C'est une excellente façon de faire de très rapides progrès. Ceux qui s'efforcent ainsi à vivre en cette précieuse compagnie, à beaucoup en profiter, à éprouver un amour véritable pour ce Seigneur, à qui nous devons tant, je les tiens pour avancer. Entendez, dans la vie spirituelle. Pour cela, nous ne devons pas... Alors là, écoutez très bien. Nous ne devons pas faire cas d'un manque de ferveur, mais rendre grâce au Seigneur qui nous permet de désirer le contenter, même si nos œuvres sont minces. Cette manière de vivre en compagnie du Christ est profitable dans tous les états de vie. C'est un moyen extrêmement sûr de progresser dès le premier degré d'oraison, d'atteindre bientôt le second et au dernier de nous garder des périls auxquels peut nous exposer le démon. Donc déjà là, il y a une petite chose que je vous ai soulignée, il ne faut pas forcément faire cas de nos manques de ferveur. Il faut s'efforcer de vivre en compagnie avec le Christ, quels que soient nos états d'âme. Ça va jusque-là ? Ok. Je continue. Ici, je vais reprendre avec vous un petit peu les grands points de son enseignement qu'elle donne dans le château intérieur ou livre des demeures. C'est la même chose, hein. Donc cet écrit, elle date de 1577 alors qu'elle est âgée de 62 ans et là elle est au sommet de la maturité spirituelle et elle maîtrise un peu tout ce par où elle est passée. C'est en quelque sorte son chef-d'œuvre. Et dans cet ouvrage, elle va exposer son expérience personnelle. Alors pour ceux qui l'ont déjà lu ou ceux qui le liraient, elle ne va pas parler d'elle, elle ne va pas dire « moi je », ce qu'elle fait beaucoup par ailleurs dans d'autres ouvrages, mais en fait elle ne fait que parler d'elle. Elle va parler de son expérience à la troisième personne. Donc quand vous le lirez, si un jour vous le lisez, il ne faut pas vous laisser prendre au piège et vous dire « donc là, il y a ça, c'est la première demeure ». Donc il faut que j'atteigne ça et ça. Ensuite, il faut que j'arrive à passer au deuxième. Ça, c'est son chemin à elle. Par contre, ce qu'elle nous y dit, en tant que balise et point de repère, est essentiel. Par exemple, les premières demeures, ce sont les demeures où on se convertit. On commence à prendre sa vie spirituelle et sa relation à Dieu au sérieux. Et pour elle, ça commence aussi avec l'oraison. Ensuite, les deuxièmes demeures, c'est là où on va croiser le fer avec nos mauvaises habitudes pour un petit peu réformer nos vies. C'est ce qu'on appelle le combat spirituel. Les troisièmes demeures, eh bien voilà, on est arrivé à une certaine vie chrétienne qui est assez enviable. On va à la messe tous les dimanches, voire plusieurs fois par la semaine. On fait oraison tous les jours. On a ses petites œuvres de piété, etc., etc. Elle dit c'est très bien. Sauf qu'il faut faire attention au pharisaïsme à ce moment-là. Il faut faire tout ça, mais ne pas oublier que ce n'est pas ça la sainteté. D'où le fait, quatrième demeure, la deuxième conversion. Voilà, etc., etc. Donc là, elle décrit son chemin. Et en même temps, vous voyez que ce qu'elle dit peut nous parler et c'est aussi bon pour nous. Donc le point de départ de ce château intérieur, c'est une vision qu'elle a. Une vision où elle voit l'âme, une vision de l'âme. Je vous lis. Alors ça, c'est un témoignage de quelqu'un. La Sainte Mère Thérèse avait désiré voir la beauté d'une âme en état de grâce. Tandis qu'elle se sentait pressée de ce désir, elle reçut l'ordre d'écrire sur l'oraison, c'est-à-dire d'écrire sur le château intérieur. La veille de la fête de la Sainte Trinité, tandis qu'elle en était à se demander quelle serait l'idée fondamentale de ce traité, Dieu exauça ses vœux et lui fournit le plan de l'ouvrage. Il lui montra un magnifique globe de cristal en forme de château, ayant 7 demeures. Dans la 7e, placée au centre, se trouvait le roi de gloire, c'est-à-dire Dieu, brillant d'un éclat merveilleux, dont toutes ses demeures, jusqu'à l'enceinte, se trouvaient illuminées et embellies. Plus elles étaient proches du centre, plus elles participaient à cette lumière divine. Tandis que Sainte Thérèse s'émerveillait de cette beauté qui réside dans nos âmes, lorsqu'elles sont en état de grâce, la lumière disparut soudain. Alors, à partir d'ici, Dieu va lui montrer ce que c'est qu'une âme qui est en état de péché. Alors, sans que le roi de gloire, c'est-à-dire Dieu, quittât la demeure centrale, le cristal se couvrit d'obscurité. Il devint noir comme du charbon et répandit une insupportable odeur. Aussitôt, les bêtes venimeuses qui se trouvaient au dehors de l'enceinte reçurent la liberté de pénétrer à l'intérieur du château. Alors, ça, cette vision, elle va d'ailleurs la décrire au début de son ouvrage. Et c'est un peu la fondation. En ce sens, première remarque, c'est que Dieu est au centre. Voilà. Dieu vit en nous. Voilà. Et ça, en particulier depuis le baptême. Depuis le baptême, et là reprenez saint Paul, hein, nous sommes le temple de Dieu. Donc Dieu est là, dans la demeure la plus centrale, et il est toujours là à nous attendre. À attendre que nous nous tournions vers lui. Et cela est tellement vrai que même lorsque nous sommes en état de péché, c'est-à-dire lorsqu'on se coupe volontairement de Dieu, eh bien Dieu ne nous abandonne pas. Il ne dit pas, bon écoute, maintenant mon garçon, il y en a assez, je m'en vais, je prends mes valises. Absolument pas. Dieu demeure présent. Quoi que nous fassions, quel que soit notre état, Dieu ne nous quitte jamais. Il est là et il attend que nous nous tournions vers lui. Et en même temps, voilà, il est aussi l'acteur de notre conversion par la grâce. Lorsque nous sommes en communion avec Dieu, lorsque voilà, il n'y a en nous plus rien qui fasse obstacle à Dieu, la lumière qui est Dieu, eh bien, irradie totalement. On a parfois des témoignages, peut-être plus dans l'Orient chrétien, de personnes, genre par exemple Séraphin de Sarov, qui devient lumineux, y compris dans son corps. Bon, prenons aussi la transfiguration. Mais voilà, des saints qui, voilà, la lumière qui habite en eux transparaît, rejaillit. De façon plus contemporaine, hein, quelque part, on peut dire qu'une mère Teresa avait cette dimension de lumineuse, ne serait-ce que par sa personne. Donc n'attendez pas de voir une personne humaine telle une ampoule se balader dans la rue. Voilà. C'est autre chose. Le péché, dans cette citation, bon, il est symbolisé par les questions de l'obscurité, de l'odeur. Ils empêchent simplement Dieu de rayonner. J'insiste, dans le catholicisme, il n'y a pas de défaitisme. Et Thérèse Avila est tout sauf défaitiste. Elle est très réaliste sur la personne, mais certainement pas défaitiste. Voilà. La personne a une dignité incomparable du fait que Dieu est là, présent et réside en elle. Et un jour où elle s'étonnait un peu de l'âme humaine, alors pouvez, si vous voulez un autre mot, voilà, de toute cette intériorité qui est la nôtre, de cette dimension spirituelle qui est en nous, un jour elle était un peu étonnée de ça, et elle entend le Seigneur lui dire, écoute, il n'y a pas à t'étonner de ça, puisque tu es créé à mon image. Finalement, parce qu'on est créé à l'image de Dieu, voilà, il y a en nous quelque chose de Dieu. Ça ne veut pas dire que je suis Dieu, hein, mais quelque chose de la trace de Dieu est en moi. Et même Thérèse d'Avila dira, voilà, nous sommes un paradis où le Seigneur trouve ses délices. Et c'est d'autant plus vrai si nous demeurons unis près du Seigneur. La deuxième remarque est que le cheminement intérieur n'est pas une ligne bien droite ou un chemin uniforme. Voilà. Il ne faudra surtout pas se comparer, dire voilà, moi je ne suis pas comme Thérèse d'Avila, ou moi je ne suis pas comme la petite Thérèse, ou je ne suis pas comme mon voisin ou ma voisine. Chacun de nous est unique, voilà, et donc unique aussi est son chemin avec Dieu. Et Dieu regarde chacun personnellement. Donc, la sainteté, hein, prenez toute l'histoire depuis 2000 ans, il n'y a pas deux saints qui se ressemblent. Il y a des familles spirituelles. Mais en même temps, prenons par exemple la famille du Carmel, hein, où il y a des points assez communs entre les saints, mais une Thérèse d'Avila, ce n'est pas Élisabeth de la Trinité, ce n'est pas la petite Thérèse, ce n'est pas Jean de la Croix. Voilà, je vous prends les quatre grands. Ou même plus récemment, ce n'est pas Marie-Eugène. Et en même temps, ces quatre saints-là vivent le charisme du Carmel et l'expriment à leur façon. Autre chose que j'ai oublié de dire, lorsque on est coupé de Dieu, ou qu'on se coupe de Dieu, hein, Dieu est toujours là, et on demeure toujours capable de retourner vers lui, et de profiter à nouveau de la lumière qu'il est. Ça, c'est lié au fait que tout simplement, il ne s'en va pas. Il y a juste nous qui ne profitons pas de sa présence. Donc, lié à la remarque précédente, hein, de ne pas considérer comme le cheminement intérieur comme une route bien droite et uniforme, c'est pas parce que Thérèse d'Avila dit 1, 2, 3, 4, 5 qu'il faut forcément faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hein, on peut tout à fait être à 1 et vivre quelque chose de l'ordre de 6 pour revenir à 1, passer à 2, ensuite vivre quelque chose qui est de l'ordre de la cinquième demeure, etc. Il y a tout un mouvement, une vie. Autre remarque, donc ça je l'ai déjà dit, Thérèse d'Avila décrit son expérience personnelle, mais en même temps, la question c'est quoi le sommet de la vie spirituelle pour une Thérèse d'Avila? Je vous ai dit tout à l'heure elle avait vécu et connu des grâces extraordinaires, hein, des visions, des paroles, des extases, etc. Et jusqu'au bout, elle martèlera que ça, ce n'est pas la sainteté. Pour elle, la sainteté, c'est une chose toute simple, c'est faire la volonté de Dieu. Et quand elle écrit le château, elle dira, voilà, la seule chose que je désire, c'est faire la volonté de Dieu. C'est ça le sommet de la vie spirituelle, et il n'y a qu'à ça que j'aspire. Être uni à Dieu est tellement proche de lui et l'aimer tellement que voilà, il n'y a rien en moi qui s'oppose à lui et que dès qu'il veut quelque chose, eh bien je le fais. Aujourd'hui, on parlerait beaucoup plus de vie sous de l'esprit, vie sous la motion de l'esprit. Ça revient au même. Donc au final, on pourrait se demander, mais c'est quoi le but de la vie d'oraison, c'est quoi le but de toute vie de prière, tout simplement de toute vie chrétienne? Qu'est-ce que nous recherchons lorsque nous venons vers Dieu? Qu'est-ce qu'on recherche lorsqu'on le prie? Avant de répondre, je voudrais juste vous citer quand même des passages de saint Paul dans ses lettres pour vous montrer que voilà, tout ce que j'ai pu vous raconter ou dire sur Thérèse d'Avila, ou finalement l'idée que vous pouvez en avoir, hein, c'est pas du délire de mystique, de quelqu'un d'un peu allumé dont on se dit méfions-nous. Saint Paul, dans la première aux Corinthiens, dit ceci: ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? À un autre endroit, il répétera à nouveau, « Ne savez-vous pas que votre corps est un temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous tenez de Dieu ?» Et dans la deuxième aux Corinthiens, « C'est nous qui sommes le temple du Dieu vivant, ainsi que Dieu l'a dit, j'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Ou vous pouvez aussi reprendre saint Jean au chapitre 14. Voilà. « Si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements. Mon Père l'aimera. Nous viendrons près de lui et nous nous ferons en lui une demeure. » En fait, tout ce que Thérèse d'Avila va raconter, c'est tout simplement la réalisation concrète dans sa vie de ces paroles de l'Évangile. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, saint Paul, du fait que vous êtes baptisé, vous êtes le temple de Dieu et Dieu vit en vous. Je dirais, avec ça, vous pouvez déjà faire oraison pendant plusieurs jours. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, le fait que je suis le temple de Dieu. Voilà, la dignité qui est la mienne, mais aussi la dignité de mon voisin, de ma voisine, la dignité de celui qui est en face de moi, l'inconnu. Voilà. Lui aussi est temple de Dieu, et Dieu vit en lui. Peut-être que notre drame, c'est qu'on oublie ça un petit peu trop souvent, et que finalement, même nous, on va avoir parfois une vision, on va dire, on se déprécie, ou alors on a une vision tellement haute qu'en fait elle n'est même pas vraie, ce qui n'est pas mieux. Mais voilà, vous êtes le temple de Dieu, et Dieu vit en vous. Donc Thérèse d'Avila ne fait que développer ça. Donc la vie spirituelle, c'est un chemin d'intériorisation progressif. Ce chemin va vers Dieu qui est là présent, vers Dieu qui est là au fond de moi, Dieu qui m'invite à rentrer, à aller le rejoindre, Dieu qui me demande aussi de passer un peu de temps avec lui. L'oraison, c'est tout simplement ce temps matériel, hein, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, une heure si vous voulez, où simplement on arrête nos activités et on consacre du temps à Dieu. Et on essaye de vivre ce temps le mieux que l'on peut. Hein. Saint Ignace de Loyola, dans les exercices spirituels, quand il parle des temps d'oraison, dit simplement ceci: le retraitant sera content d'avoir donné ce temps à Dieu. Point à la ligne. Pas, il sera content d'avoir eu de grands élans spirituels, d'avoir élaboré de grandes pensées profondes. Non, il sera content d'avoir donné ce temps à Dieu. Donc que ce temps ait été agréable ou désagréable, extatique ou laborieux, peu importe. J'ai promis un temps à Dieu et je le lui ai donné, et ça suffit. Si vous voulez une autre citation biblique, hein, c'est le vécu de cette petite phrase du prophète Samuel: « Parle Seigneur, ton serviteur écoute. » Et ça prend toute une vie d'apprendre à écouter. Le fait que Dieu soit présent en nous, eh bien ça va colorer notre démarche. Ce n'est pas du dehors, hein. Comme disait saint Augustin: « Tard je t'ai aimé, beauté suprême, je te cherchais au dehors et toi tu étais dedans. » Donc pour Thérèse d'Avila, qui était une grande lectrice, elle aimait beaucoup saint Augustin, c'est la même démarche. Il ne s'agit pas de chercher Dieu dans le ciel, sur des nuages, il est là, présent en moi. Finalement, cette vie, ce chemin avec Dieu, il va nous conduire jusqu'à la rencontre finale, le ciel. Et au ciel, on poursuivra cet exercice, cette amitié que l'on a développée. Et ce chemin, on ne le fait pas seul, mais avec Dieu. Et Dieu désire encore plus que nous se donner à nous. Jean de la Croix écrira, je ne sais plus trop où, voilà: si la personne cherche Dieu, eh bien Dieu la cherche avec encore plus de force. C'est donc Dieu qui nous aidera, c'est lui qui nous donnera de franchir les étapes, c'est lui qui nous aidera à marcher, lui qui nous aidera à nous relever lorsque nous tombons. Voilà, c'est lui qui est le centre, c'est lui qui nous donne d'aller vers lui. Alors, peut-être que vous dites, bon, tout ça c'est gentil, c'est peut y avoir un côté, on va dire, narcissique, égocentrique. Alors, oui, c'est un risque, notamment dans la vie d'oraison, puisqu'on se recueille, on cherche Dieu en soi, au bout d'un moment, de tourner autour de son nombril. Bon, ça c'est un des écueils possibles, mais ça c'est pas la véritable vie d'oraison. Et pour ça, je vais vous citer, et ce sera ma citation conclusive, un texte du père Marie-Eugène, tiré d'un ouvrage qui s'appelle « Au souffle de l'esprit ». Et il dit ceci: « Quand nous voyons dans l'histoire de l'Église toutes les œuvres accomplies par les saints, par les fondateurs d'ordre, par ces hommes que Dieu a placés au grand tournant de l'histoire pour faire œuvre d'apostolat, nous sommes étonnés de la fécondité de leur apostolat. Cette fécondité s'explique tout simplement parce que ces âmes ont fait œuvre divine. Dieu les a mues, elles ont mis leurs facultés à sa disposition. Tout en restant personnelles, leurs actions étaient aussi divines. Pour que l'action soit parfaite, il faut que l'Esprit Saint lui-même nous pousse. Qu'il soit tellement uni à nous que notre action soit vraiment une action humaine, évidemment, mais vivifiée, animée, divinisée, non pas seulement par l'assistance, mais par l'action intime de l'Esprit Saint. Considérer l'union à Dieu comme un travail uniquement fait pour la gloire de Dieu, pour le perfectionnement de l'âme, et surtout, comme on l'a dit, pour la recherche de jouissances mystiques égoïstes, c'est méconnaître la valeur de cette union à Dieu. L'emprise de l'Esprit Saint, l'union à l'Esprit Saint, est nécessaire à tous et surtout à l'apôtre. C'est justement cela qui fait la perfection de l'apôtre. Tout ça pour dire que le sommet de la vie spirituelle, le saint, n'est pas tourné vers son nombril pour jouir de façon égoïste de ce que Dieu peut lui donner. Dieu, en fait, a forgé un apôtre. Et il l'envoie, si c'est sa mission, auprès des hommes évangélisés. Je crois que le diocèse, aujourd'hui, c'est la grande phrase qu'on reprend au pape François, « disciple missionnaire ». Eh bien, il n'y aura pas de mission véritable si on n'est pas uni au Christ, si l'Esprit Saint n'est pas le moteur de notre vie. Parce que la mission, ce n'est pas d'abord notre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Voilà. Alors maintenant, la parole est à vous. Donc, toute question, réaction, contestation.
Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous reparler un peu plus de la quatrième maison de...
Oui.
Où on redécouvre...
Alors, la quatrième, en fait, c'est une demeure, on va dire, un peu charnière. Il y a la première où, tout d'un coup, on prend au sérieux sa vie spirituelle, la toute première. Donc là, c'est le moment où je fais mien, finalement, ce que j'ai reçu de papa-maman, la foi que j'ai appris à la maison, ce que j'ai reçu de mes parents, je me l'approprie. Donc la foi n'est plus seulement quelque chose que j'ai reçu, c'est quelque chose dont je vis. Donc après, je commence à cheminer et à réformer ma vie, à mettre Dieu un petit peu plus au centre. À la troisième, on a fait des efforts, on s'est battu contre nos mauvaises habitudes, on a voulu mettre Dieu au centre et on y est arrivé. Ce qui fait que Thérèse d'Avila, lorsqu'elle décrit la troisième, elle dit « il y a une perfection qui est là, qui est quand même assez belle. » Mais le problème, c'est que là, c'est le jeune homme riche. Elle dit « la troisième, c'est celle du jeune homme riche. » Voilà. Tout cela, je l'ai accompli dès ma jeunesse. Qu'est-ce qui me manque encore ? Eh bien, va, vends tout ce que tu as et suis-moi. Et c'est la réalisation de cette parole, ce que j'appelais la deuxième conversion, qui fait que finalement, toutes ces œuvres que j'ai faites, et qui étaient bonnes et qu'il fallait que je fasse, hein, je le dis, hein, et je souligne, eh bien, à un moment donné, je passe de « c'est juste mon travail » à « maintenant, c'est le travail de Dieu en moi ». Voilà, la deuxième conversion. Les quatrièmes, c'est aussi le passage de ce qu'on dit de la vie dite ascétique, c'est-à-dire je me retrousse les manches et je fais tout le travail à la force du poignet. Bon, toujours avec la virgule, avec la grâce de Dieu, hein, il ne faut pas l'oublier, à ce qu'on appelle la vie dite mystique, c'est-à-dire je me laisse faire par Dieu. Et à partir des quatrièmes, on apprend à se laisser faire par Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on jette par la fenêtre tout ce qu'on a fait avant. Tout ce qu'on a fait avant, il fallait le faire. On a posé des bases, mais ce n'est pas ça. Il faut que j'apprenne à écouter Dieu, à reconnaître sa voix, à le laisser agir. Et à partir des quatrièmes aussi, Dieu va commencer à me travailler, à me purifier. Parce que, je disais, les troisièmes, il y a une perfection. Les vices que je pouvais avoir, j'ai essayé de les corriger, j'ai essayé d'établir Dieu dans ma vie. Mais à un moment, ça, c'est juste du superficiel. Toutes les racines du mal en nous, du péché, ben, il faut les enlever. Et ça, nous, on ne peut pas. Ça, c'est le travail de Dieu, quand il voudra et comme il voudra. Là, c'est tout simplement penser à la parabole du bon grain et de l'ivraie. Il y a un moment où les deux poussent ensemble, et à un moment donné, il faut séparer. Et ça, c'est Dieu qui le fait. La quatrième, c'est vraiment ce basculement où on passe d'une vie qu'on mène soi-même à une vie où on apprend à se laisser faire par Dieu. Voilà. Et après, il y a tout un déploiement. Les trois premières, les quatre autres. Donc, finalement, ça prend beaucoup plus de temps à apprendre à se laisser faire par Dieu. Et voilà. Mais c'est Dieu qui est acteur. Je pense que Dieu, il nous aime suffisamment, il nous prend suffisamment au sérieux, parce que si nous, on se donne à lui, si on, voilà, on est tendu vers lui, alors oui, il va nous prendre, il va nous prendre au sérieux, et il va nous faire avancer. Ce passage, quelque part, il est aussi l'œuvre de Dieu. Mais il suppose cette acceptation du « va, vends tout ce que tu as et suis-moi ». En fait, avant, on préparait tout ça. Et à un moment donné, il faut accepter de basculer de l'autre côté. C'est pour ça que j'ai commencé par la citation d'Éloi Leclerc, qui, je trouve, synthétise tout. Voilà, on n'est pas sauvé par ses œuvres, il faut devenir soi-même l'œuvre de Dieu. Voilà, je ne sais pas si je réponds.
D'autres questions ?
Ils sont assommés.
Alors, moi j'en ai une. Vous avez dit que l'oraison n'était pas une méthode à suivre, mais est-ce que vous pourriez nous donner quelques conseils pratico-pratiques pour voilà,
oui.
Qu'est-ce que je vais faire dans l'oraison? Je la fais tous les combien? Je fais quoi? Je le fais ça où? Voilà.
Voilà. Alors, il n'y a pas une méthode au sens d'un carcan, il y a des points de repère et des directions. Parce que si on regarde, par exemple, et j'ai beaucoup de respect pour la compagnie de Jésus, mais l'oraison telle qu'elle est pratiquée chez les jésuites, c'est très cadré et c'est très clair. Il y a des points et des étapes. Thérèse d'Avila ne fera pas de systématisation comme ça. Voilà, ce n'est pas dans sa tournure d'esprit. Donc, elle va donner des points de repère. Donc, l'oraison, je dirais, c'est très... C'est moi l'expression matérielle. C'est d'abord un temps. C'est-à-dire, je consacre au Seigneur X minutes. 10, 15, 20, 30. Une heure, si vous voulez. Mais ceci dit, on ne fait pas une heure du jour au lendemain. Voilà. Donc, c'est d'abord un temps que je décide de consacrer à Dieu. Et aussi, là, c'est en conscience et devant Dieu, X fois par semaine. Voilà. Je pense à un cas, un monsieur que j'ai accompagné à l'époque où j'étais sur Bordeaux. Et bon, il était en activité professionnelle et il voulait faire oraison. Bon. Sauf que, vu qu'il était responsable de sa coopérative agricole, qui avait aussi derrière femmes et enfants, voilà, tous les jours, il avait un peu de mal. Alors, il avait trouvé que c'était le vendredi entre midi et deux, il pouvait se dégager une heure pour faire oraison. Donc, il faisait oraison une fois par semaine pendant une heure. Et le temps ayant évolué et sa situation aussi, un jour, ben, il est passé à tous les jours. Il faisait plus une heure, mais peut-être entre 20 minutes et une demi-heure, mais quotidienne. Voilà. C'est pas parce que, par exemple, vous commencez par 5-10 minutes, parce que vous n'avez jamais essayé, que vous vous apprivoisez et que vous apprivoisez ce temps, que vous êtes condamné à faire 10 minutes toute votre vie. Voilà, on commence petit. Voilà. Si 10 minutes pour vous c'est suffisant, c'est bien. Pas parce que. Je pense que c'est bien parce qu'il faut aussi prendre un pli, une habitude, et prendre l'habitude de faire oraison. Donc, un temps X minutes. Tant de fois par semaine. Et ça, c'est vous qui le décidez avec Dieu. Donc, tous les jours, c'est bien, je ne vous dirai pas le contraire. Maintenant, il vaut mieux commencer, je dirais parfois modestement, et ensuite poser petit à petit l'oraison quotidienne, plutôt que de commencer tous les jours pendant une heure et au bout de 2 mois arrêter parce que vous n'en pouvez plus. Il faut aussi faire preuve d'un peu de réalisme. Donc voilà, un temps que vous décidez, X minutes, tant de fois par semaine, et aussi à tel moment, à une heure précise. Je me rappelle d'une jeune femme que j'avais accompagnée et qui voulait faire oraison plusieurs fois par semaine. Très bien. Donc, comme elle était étudiante, je crois qu'elle passait son CAPES, donc elle avait quand même le travail à faire. Et elle avait quand même, je crois, ces 3-4 jours dans la semaine où elle n'avait pas cours et où elle pouvait caser oraison. Bon, bah, très bien. Donc vous ferez oraison ces 3-4 jours-là. Un mois après, bon alors, ça va comment ? Ben, en fait, ça a été un peu laborieux et j'y arrive pas tout le temps. Je dis, bon, et en fait, comment ? Ben, en fait, bon, le lever, je suis encore un peu dans le cirage, donc je fais pas tout de suite. D'abord, je prends mon petit-déj. Puis des fois, je commence à lire les nouvelles, à lire ceci, sur Internet, etc. Donc du coup, après, l'heure tourne et puis, oula, mon Dieu, il faut que je travaille quand même un petit peu. Donc voilà, mais je ferai raison plus tard. Parce que là, tout à l'heure, là, il y a un moment, je m'arrêterai. Sauf qu'au moment où elle s'arrêtait, il y a la copine machin qui a débarqué. Bref, donc je ferai oraison cet après-midi, oui, mais il fallait faire les courses, et puis je dois aller passer à la BU, donc, mais je ferai oraison en rentrant ce soir, sauf que ce soir, elle n'avait pas prévu tel truc, et enfin, voilà. Son mois, ça avait été ça. Il y avait des jours, elle est arrivée, mais la plupart du temps, je dirais, les 2/3, pour ne pas dire les 3/4 du temps, elle n'y arrivait pas. Bon, très bien, alors, eh bien, faites un effort, allez-y, continuez, on va y arriver. Mois d'après, alors, ça va comment ? Même sketch. Ça a duré 2-3 mois. À un moment donné, je lui ai dit, écoutez, peut-être qu'on va faire autrement. Vous choisissez une heure précise dans la journée que vous marquez dans votre agenda, que vous fixez. C'est-à-dire, si vous décidez de faire oraison à 7h le matin ou à 7h le soir, à moi, peu importe, c'est le moment réaliste pour vous et c'est à ce moment-là que vous faites oraison. Donc vous savez que c'est à... Bon, je vais garder 7 heures. Ça peut être à midi, ça peut être quand vous voulez. Mais vous savez qu'à ce moment-là, vos activités, elles s'arrêtent et vous faites oraison. Et si jamais ce jour-là, vous avez raté parce qu'il y a eu un imprévu, ben c'est pas grave parce que le rendez-vous, il est marqué pour la fois d'après. Et vous savez que la fois d'après, ce sera même lieu, même heure. Dans les couvents, on a des cloches. En fait, ça règle la vie. Mais ça a ceci d'intéressant, c'est que ça donne des points de repère de la journée. Et quand, par exemple, les frères, on part en ministère à droite ou à gauche, alors c'est sûr que je ne fais pas forcément oraison à 6h30 le matin comme si j'étais au couvent, ou à 6h30 le soir comme si j'étais au couvent. Voilà, parce que le fait que je sois à l'extérieur, c'est soit je suis au confessionnal avec des sœurs, soit je suis avec des gens en train de causer avec eux, donc je n'ai pas mon rythme de couvent. En même temps, il y a des habitudes que j'ai prises et je sais que voilà, il va falloir. Je ne l'ai pas encore fait, il va falloir trouver un moment. Et donc, je pense à ma journée et donc il faudra que j'anticipe. Parce qu'il y a une habitude qui s'est créée. Et les habitudes, ce n'est pas forcément mauvais. Hein, parce qu'aujourd'hui, on a un peu tendance à décrier les habitudes. Une habitude bonne, c'est bien. On appelle d'ailleurs ça une vertu en théologie. Et il faut comme ça des points de repère dans la journée. Sinon, vous allez faire comme cette jeune femme que j'ai citée, vous allez passer votre temps à courir derrière le moment idéal pour faire oraison. Ce sera la pieuse idée de la journée, le papillon derrière lequel vous allez courir et que vous n'attraperez que rarement. Voilà. Donc il y a des choses très matérielles, c'est-à-dire vous fixez la durée, le rythme hebdomadaire, l'heure à laquelle vous la ferez, et ensuite... vous essayez de dire ça comme vous pouvez. Je m'explique. Je pense qu'une fois que... Ah oui, c'est aussi un cadre, c'est-à-dire un lieu. Il y a des personnes qui vous disent « Oui, mais mon père, moi je prie partout, voilà, j'ai pas besoin de... » Si vous faites oraison dans le métro à Toulouse aux heures de pointe, c'est sûr que c'est partout, on peut partout prier Dieu. Mais je vous souhaite bon courage pour le recueillement. Parce que entre les gens qui causent le bruit, le machin, juste il y a une panne à ce moment-là. Oui, mais j'étais recueilli. Bah oui, mais il faut sortir du métro. Voilà, c'est pas un lieu pour faire oraison. Donc on a besoin d'un silence, on se donne un cadre pour rencontrer Dieu. Aujourd'hui, ça veut aussi dire que cette chose-là, on la coupe. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des applis, on met juste indisponible. Et puis, si on ne veut pas l'éteindre complètement. Mais voilà, on se donne les moyens. Donc après, il y a des personnes qui se font des petits coins prière chez elles, d'autres qui n'arrivent pas forcément chez elles, qui font ça dans des églises. Le lieu est un peu indifférent. Par exemple, j'ai connu, soit que j'ai accompagné, soit dans les écoles d'oraison sur Bordeaux, il y avait une personne qui disait, elle avait fait chez elle un petit coin prière. Voilà, c'était dans un coin du salon, parce que c'était le lieu le plus spacieux. Elle s'était aménagée un coin prière, avec son petit prie-dieu, une icône, une bougie, voilà. C'était son coin prière, et quand elle voulait prier, c'est là qu'elle allait. Elle avait une autre, elle disait, c'est dans sa cuisine. Voilà, il n'y avait pas d'icône, il n'y avait pas quoi que ce soit, c'était la cuisine, parce que la chambre, il y avait monsieur qui dormait encore, le reste, il y avait les enfants, et la cuisine était le seul moment, parce qu'elle le faisait tôt le matin, avant que toute la maison ne se lève, et là, elle était tranquille dans sa cuisine. J'ai connu une autre personne qui ne pouvait pas faire oraison chez elle, parce qu'à la maison, c'était le repassage à faire, il y a les trucs à ranger, et il y a les coups de fil, il y a les machins, il y a les bidules. Donc elle, pour faire oraison, elle allait à l'église. Voilà, elle sortait de chez elle pour faire oraison, parce que chez elle, elle n'y arrivait pas. Et là, c'est juste pour rigoler, mais une personne qui m'a dit dernièrement, alors quand je suis à l'oraison, voilà, j'ai dit que je fais une demi-heure, mais au bout d'un quart d'heure, tout d'un coup, je me sens stimulé à aller faire du rangement. Ça ne m'arrive jamais. Je pense que c'est l'Esprit Saint qui me pousse. Alors du coup, je me lève et j'y vais. J'arrête l'oraison et je vais faire le rangement. Ça m'arrive jamais, mais ça m'arrive qu'à l'oraison. Je lui dis non. Ça s'appelle une tentation. Pardon. Restez assise, restez là et faites le rangement après. Voilà. D'où l'importance du temps que vous avez fixé, hein. Qu'il soit que vous ayez l'impression que c'est court, que vous ayez l'impression que c'est long, que c'est très agréable ou que c'est hyper laborieux, peu importe. Le temps que vous avez fixé, vous le tenez. Parce que sinon, si c'est juste quand vous avez envie et comme vous en avez envie, ben, au bout d'un moment, vous risquez d'arrêter et puis vous ne ferez pas souvent oraison. Une fois, j'entendais une jeune fille dire dans une école d'oraison, « Oui, moi je pense que la prière, il faut le sentir, il faut que ça vienne tout seul, sinon ça n'a aucun sens, etc. » Et puis, moi, plus je l'écoutais, je me disais, ben, elle ne va pas souvent prier dans sa vie. Hein. Voilà, la prière, c'est aussi un choix. Thérèse d'Avila, je vous l'ai cité tout à l'heure, elle dit, quand vous voudrez, vous le trouverez. C'est un choix. Donc voilà, on pose des éléments, je veux dire, très matériels. Voilà, un cadre. Peu importe. Il faut qu'à vous, il vous mène à la prière. Un temps. Etc. Et puis ensuite, vous pouvez commencer par invoquer l'Esprit Saint. Nous, c'est ce qu'on fait au début de l'oraison. Alors, le début de l'oraison est hyper important sous ces petites apparences anodines. Parce qu'au tout début, vous allez vous poser devant Dieu et vous allez décider, vous allez donner la direction de ce temps-là. Chez les jésuites, ils ont ce qu'ils appellent au tout début des temps de prière la demande de désir. La demande de... Oui, c'est ça, je crois que c'est un truc dans le genre. On demande une grâce à Dieu, la demande de grâce, pardon. On demande quelque chose à Dieu. Voilà. On aimerait que cette oraison ait ça comme fruit. C'est la méthode ignatienne. Au Carmel, on ne fait pas trop ça. Mais ce qui est très intéressant là, et ça se retrouve aussi au Carmel, je pose d'abord mon désir et je me pose devant Dieu. Exemple personnel pas très glorieux. Quand j'étais à Bordeaux, alors le couvent qu'on a à Bordeaux plutôt est dans la campagne girondine, donc entouré de vignes. Et quand on veut marcher, il suffit juste d'ouvrir la porte et de sortir, on est en pleine campagne. Et il y avait des fois où toutes les semaines, on a ce qu'on appelle l'oraison en temps et lieu libre. C'est-à-dire, chaque frère s'organise comme il veut. Ouais, il le fait quand il veut et où il veut. Parce qu'habituellement, c'est tous à la même heure à la chapelle, sauf le dimanche. Et il y avait des dimanches où, parce que bon, voilà, j'étais fatigué de la semaine et j'avais besoin de m'aérer, je me disais, bah, ça tombe bien, il va y avoir le temps d'oraison, j'irai marcher. Et puis un jour, j'ai fini par remarquer que je ne faisais pas vraiment oraison. Je marchais, je m'aérais, je regardais tout ce qu'il y avait autour de moi, les oiseaux, les papillons, les voitures qui passent, voilà. Et je me suis dit, à un moment, attends, qu'est-ce que tu fais là ? C'est le temps d'oraison. Oui, mais là, j'ai besoin de m'aérer, j'en peux plus. Ce qui avait fait que j'étais sorti, ce n'était pas Dieu, c'était moi. J'avais besoin de m'aérer. Et ça, ça avait donné toute la direction à ce temps-là. Ce qui fait que de temps en temps, je me disais quand même, pris de scrupules, bon, on va faire un effort pour réorienter le tir. Bon, ce n'était pas évident tous les jours parce que ce n'était pas ça qui m'avait fait marcher. Donc le début de l'oraison, vous donnez la direction. Et c'est très important. Parce que à cette direction que vous avez donnée, vous allez revenir. Parce que vous allez avoir des distractions et votre oraison, ce sera une fois, 10 fois, 20 fois, 100 fois, revenir à ce pourquoi vous êtes là, c'est-à-dire Dieu. Vous entendrez parfois des personnes vous dire « Oui, l'oraison, c'est l'acte de foi pendant une heure, pendant voilà, on est plongé en Dieu pendant ce temps-là. » Le père Marie-Eugène, qui a été béatifié il n'y a pas si longtemps que ça, dit « C'est impossible. On ne peut pas être dans un acte de foi pendant une heure. Par contre, tout le temps d'oraison sera de revenir à cet acte de foi parce qu'on aura été distrait. » Et Thérèse d'Avila dira « Les pensées qui sont le grand problème des personnes, hein, j'arrive pas à arrêter ma tête, mais je dirais personne ne vous le demande. Il ne faut pas arrêter votre tête, il faut juste apprendre à chercher Dieu et à ne pas en être gêné. Donc à revenir à ce pourquoi vous êtes là. Voilà. Une fois, 10 fois, 20 fois, 100 fois s'il faut. Et puis après, vous vous aidez de tout ce que vous voulez. » C'est-à-dire, si l'oraison, c'est une relation avec Dieu, alors tout ce qui va nourrir cette relation est le bienvenu. Hein? Si vous voulez dire lentement à notre Père, la petite Thérèse, quand elle avait des distractions, elle dit, je récite lentement à notre Père et un je vous salue, et ça m'aide à me recueillir à nouveau. Thérèse d'Avila disait, je ne vais jamais à l'oraison sans un livre. Ça ne veut pas dire qu'elle l'ouvrait et qu'elle faisait un temps de lecture. C'est-à-dire que si elle avait des distractions et qu'elle avait besoin de quelque chose qui l'aide à se recentrer, elle avait un soutien à côté d'elle qu'elle pouvait prendre. Voilà. Ce n'était pas un temps de lecture, mais la lecture l'aidait. Vous avez la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de faire sa lectio divina ou pour nous de préparer l'homélie de dimanche prochain. C'est la parole de Dieu qui vous donne une assise pour rencontrer le Christ. Et Thérèse d'Avila utilise beaucoup la parole de Dieu et dit voilà, j'aime beaucoup l'épisode de la Samaritaine, donc exit la Samaritaine, c'est moi la Samaritaine. Donc je viens rencontrer Jésus au bord du puits et c'est moi qui lui demande l'eau vive. Ou d'autres fois, elle dit bon, quand elle ne se sentait pas glorieuse, elle dit bon, ben voilà, je m'imagine allant à Gethsémani, le Christ souffre, il est seul, il va bien accepter que je sois là avec lui, même si je ne suis pas très glorieuse. Voilà. Tout ce qui nourrit la relation est bienvenu. Et puis, voilà, si vous sentez que vous êtes là, en présence de Dieu, ben, demeurez-y. Parlez si vous voulez parler, taisez-vous si vous voulez vous taire, louez si vous voulez louer, ne dites rien. Voilà. Peu importe, voilà. Pourvu que vous nourrissez une relation avec Dieu. Et éviter les caricatures du genre ce que j'ai entendu il y a un peu plus d'un mois. Non, ma l'oraison, donc c'est pas l'adoration, donc je fais pas, je n'adore pas. Comme c'est pas le temps de méditation, bah c'est pas ça. Comme l'intercession, c'est pas le moment, donc je fais pas intercession. Il y en a eu comme ça une dizaine de choses. Et vraiment, j'ai dit à la personne, mais en fait, vous faites quoi, l'oraison ? Voilà. C'est pas du zen. Même habillé de façon catho. On rencontre Dieu. Et donc, ce qui est la grâce du moment, eh ben, c'est la grâce du moment. Il est temps d'aller faire oraison, à moins qu'il y ait une question vitale, ou moins vitale, hein, mais qui vous empêcherait de dormir, sinon.
Pas de question vitale. Bon, pour être de toute façon
les poser la semaine prochaine à un autre Père Carme, remercions nos frères, enfin nous lui dirons tout à l'heure. Et nous allons nous rendre maintenant à la chapelle. Je rappelle que les trois premiers bancs sont chauffés, on peut les laisser pour les plus fragiles. Et nous allons nous mettre à la chapelle et faire un quart d'heure d'oraison, c'est-à-dire de prière silencieuse. C'est trop ?
Je n'ai pas entendu ce que j'ai entendu.
Non, je crois que c'est bien. D'accord ? Et nous allons aussi demander au Seigneur la grâce de nous lancer dans cette oraison qui est une rencontre avec le Christ, comme avec notre meilleur ami. Et puis, peut-être que dans votre oraison, vous pourrez essayer de prendre votre résolution, en tout cas pour ces trois semaines, de prendre tous les jours, ou tous les deux jours, comme vous voudrez, un temps d'oraison que vous déterminerez, un lieu, comme on vous l'a dit, pour que la semaine prochaine, vous ayez déjà un peu plus d'expérience dans l'oraison et que la deuxième conférence vous fasse peut-être grandir d'une demeure.